La parole ne pourrit jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidjimé sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio Éducation, Inconditionnel Férou des Belles Lettres, dans la variété de vos responsabilités et la noblesse de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission, La Vigue littéraire de ce jeudi 9 juillet 2026. Après avoir remporté le Grand Prix littéraire du Bénin dans la catégorie Prix Jean Pliant de la fiction littéraire en 2024, avec son roman Confluence, Fuseni Tanku Banakorodi revient en librairie avec un nouveau livre, Coupable. Paru cette année aux éditions Légende, ce roman est ficelé en 174 pages et subdivisé en 6 chapitres. Ce livre vient placer la parole au centre du débat. Il rappelle qu'un silence peut peser autant qu'une phrase et qu'une phrase peut changer le cours d'un destin. Entre fiction et vérité, entre faute avouée et faute inventée, le texte explore jusqu'au où un mot peut marquer un corps, une famille, une mémoire. Pendant les minutes qui vont suivre, nous allons, avec l'aide de l'auteur, décortiquer ou voir la mécanique de la culpabilité à travers les pages de ce livre. Mais avant, nous allons suivre le cachet littéraire avec Nadia Kouadjito. Nadia, bonjour.
Bonjour Enoch.
Comment ça va?
Ça va bien.
Alors, qu'est-ce qu'on retient?
Les livres ont cette étrange manière de traverser le temps sans jamais perdre leur voix. Dans le silence des bibliothèques comme dans l'agitation du monde, ils continuent d'éclairer les consciences, de réveiller les mémoires et d'interroger notre époque. À vous. Livrophage et alchimiste des mots, bonjour. Laissez-vous guider, le voyage littéraire commence à présent. Au-delà des pages, les livres créent des espaces de dialogue. La Bibliomenou vous donne rendez-vous le samedi 8 août 2026 à 16h à l'espace Meiton de Calavi pour une nouvelle parade littéraire consacrée à Collins Yann et à son ouvrage Adam et Ève au Bénin, La bataille de Ouida Plage. Une invitation à découvrir cette œuvre autrement au contact de son auteur et dans le partage des passions littéraires. Mais si certaines rencontres permettent de dialoguer avec les écrivains, d'autres œuvres prolongent la conversation en nous confrontant aux réalités de notre société. La littérature ne se contente pas de raconter les histoires, elle révèle aussi les failles de notre époque et invite chacun à interroger ses choix. C'est dans cette perspective que s'inscrit 40 ans de réclusion criminelle, le troisième roman de Roméo Jérémy Babalao, paru aux éditions Récréation. À travers cette œuvre, l'auteur dresse le portrait d'une société en perte des repères où l'appât du gain facile entraîne une partie de la jeunesse vers la cybercriminalité, les crimes rituels et d'autres dérives qui ébranlent les fondements de la morale. Mais loin d'en faire l'apologie, le roman rappelle qu'aucune richesse bâtie sur l'illégalité n'échappe durablement à la justice. Le rideau tombe sur cette nouvelle escale du cachet littéraire, votre rendez-vous au cœur des lettres. Merci de l'avoir suivi et que la magie des mots vous accompagne.
Merci Nadia pour ce travail. Aujourd'hui, nous parlerons du tout nouveau roman de l'écrivain Fuseni Tanku Banakorodi. Il s'agit de Coupable. Mais prenons le pouls de la régie.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducation.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour écouter l'homme de la cité des Pétoni, Fuseni Tanku Banakorodi, autour de Coupable, son dernier livre. Fuseni, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va, merci.
Toujours souriant.
Bon, c'est la vie.
Que disent les génies aujourd'hui?
Bon, les génies disent que je vais rencontrer un vrai génie à moi ce soir.
Et donc, les génies seront que nous avons une compatriote, Nathalie Rumvoyekpe, dramaturge béninoise, qui est élevée au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Elle est l'une des figures majeures du théâtre béninois. Que pensent les génies?
Oh, toutes nos félicitations, toutes nos joies. C'est un grand plaisir. C'est un honneur pour notre pays et c'est un honneur aussi pour les écrivains que nous sommes. Parce que les écrivains sont des moules en même temps qui sont les yeux de la société. Donc ils travaillent à travers les différentes observations à proposer ce qui est mieux. Ils font d'abord l'état des lieux de la société et ils proposent ce qui est mieux. Donc je crois que dans un pays qui veut du progrès, donc la littérature doit avoir sa place et pas n'importe laquelle. Parce que c'est grâce aux idées qui portent des rêves que le monde, dans sa vocation dynamique, essaie de faire de grands pas, essaie de faire des progrès. D'accord. Donc nous saluons notre sœur, nous sommes fiers d'elle.
Super.
Merci.
Bravo à elle.
Bravo à elle, bien sûr.
Alors, je crois que vous avez 4 livres à votre actif.
C'est le 6e.
C'est le 6e.
Oui, bien sûr, c'est le 6e.
Alors, vous avez 2 romans.
Non, j'ai 4 romans.
4 romans.
Oui, 2 nouvelles.
2 nouvelles.
Ouais.
Alors, il y a 2 de vos romans,
oui.
Notamment Confluence.
Oui.
Et puis, ce qui vient de sortir.
Coupable, oui.
On sent que vous aimez utiliser une structure fragmentée ou hétéroclite. Mmh. C'est-à-dire, vous aimez triturer la mémoire du lecteur avec des histoires qui s'inscrivent l'une dans l'autre.
Bien sûr.
Quel est le lien qui unit ces récits que vous partagez avec les lecteurs?
Oui, en réalité, il faut dire que mes ouvrages, quand vous les lisez de près, vous voyez en fait que c'est le schéma de la vie. La vie n'est pas linéaire, vous voyez. La vie, c'est comme un long fleuve avec des contournements, des sinuosités. Donc la littérature doit permettre également un exercice et pas seulement les mathématiques. Donc quand on lit à un moment donné, il faut s'interroger sur ce qu'on lit et faire des connexions, des liaisons, vous voyez. Essayer de donner une suite, vous voyez, aux différentes lectures, aux différentes pages que vous avez eu à faire depuis là, vous voyez. Donc nous, généralement, nous partons d'une thématique, d'une idée générale, et nous essayons de voir les insuffisances que traînent nos sociétés. Mmh. Vous voyez ? Et à travers des exemples de nos contes, de nos légendes, nous essayons d'habiller, vous voyez, ou carrément des faits sociaux. Et nous prenons ces faits sociaux-là pour nous en servir comme des exemples.
Justement, quand on prend les 2 romans,
oui.
Confluence et Coupable,
oui.
j'ai le sentiment que vous puisez les histoires dans les faits sociaux du Nord, notamment de Djougou. Si ce n'est pas le peuple,
oui,
ce sont les berdiers au roi. Si ce n'est pas un roi, ce sera sa majesté.
Non,
effectivement. Qu'est-ce qui explique
oui,
cet attachement-là?
C'est vrai que...
Même dans oui. je crois...
Le tournoi des tourmas aussi.
Même le dossier du jour.
Dossier du jour, bien sûr, ouais. Vous savez, nous sommes nés dans le calcul aléatoire de la vie, nous sommes nés dans une famille royale, vous voyez. Et dans les palais, vous savez, on ne parle pas n'importe comment. On a aussi des griots. Et donc, à force de rester, de suivre ce qui se passe au palais, nous avons essayé de relayer comme Salif Keïta, vous voyez.
Ah,
Salif Keïta, dans leur famille au Mali,
journaliste alors.
Bon, je suis allé à l'école et je suis en train de montrer le chemin à la jeune génération comme quoi il faut puiser dans l'immensité de nos richesses culturelles pour donner la vision du monde de notre communauté. Mais au-delà même de cette communauté, quand vous prenez Confluence, j'ai eu à dire sur les ondes que c'est grâce à une chanson de Anis Pépé, qui est de l'UEME, que j'ai pu construire la thématique de Confluence, voyez, et son morceau Satik Bantoué, voyez, non, où il disait entre une femme qui n'a jamais fait d'enfant et une autre qui a fait un enfant mais dont l'enfant est mort, entre les deux, qui souffre vraiment, qui peine, voyez.
On va revenir sur Coupable.
Okay.
Alors, ce livre est écrit en réponse à l'accusation de certaines de vos lectrices. Le prologue le prologue est édifiant.
Bien sûr. Oui, vous savez, j'ai écrit les prémices de l'humanité. J'ai écrit La vie nous sépare, l'amour nous unit. J'ai écrit Le tournoi des tourments. J'ai écrit Confluence. J'ai écrit Dossier du jour. Et dans tous ces romans, j'accorde une place très importante à la femme. Parce que je sais que la femme est le moteur transformateur de la société. Donc, quand la femme se porte mieux, il en est de la société, vous voyez. Mais je n'ai, dans ces romans, dans mes narratifs, je ne dis pas que les femmes sont des anges. se voyaient. Mmh. Je montre leur faiblesse en tant qu'être humain, être fait de chair.
C'est ce qu'on vous reproche?
Non, au-delà. On me dit pourquoi chaque fois c'est sur la femme que je veux que l'équilibre de la famille se pose. C'est elle qui ploie, voyez, sous le coup de l'injustice. C'est elle qui se fatigue à se battre pour la famille. C'est sur elle que les règles sociales ont mis trop de responsabilités pour l'équilibre de foyer. Et que c'est quand elles font mal que tout de suite ça se relaie. Mais est-ce que nous avons, à un moment donné, pensé au comportement des hommes? Est-ce que le comportement des femmes n'est pas...
La résultante.
Voilà, le tributaire du comportement des hommes. À cette question, ce n'est pas une accusation. J'ai dit effectivement, elles ont raison, parce que je vis en société, je vois les couples. Je suis le petit frère de 7 sœurs, j'ai 7 grandes sœurs, et j'ai vu ma maman vivre des moments difficiles qu'ensuite, à des mésententes, mes sœurs revenaient à la maison. Elles quittaient le foyer, elles quittaient leur mari pour revenir à la maison. Donc j'ai vu la désolation que vivait ma maman. Donc je me suis dit, avant de m'attaquer à ceux qui se comportent mal vis-à-vis de mes sœurs, il faut que je voie, est-ce que mes sœurs sont dans leur rôle? Le rôle que la société a établi pour la femme, est-ce qu'elle joue correctement et pleinement ses rôles? Donc c'est pourquoi dans mes romans passés, je n'ai fait que replacer la femme dans son rôle social. Est-ce que vous voyez? Et je disais à mes sœurs, non, nous devons balayer devant notre cour et après, on va voir ce que vos conjoints font. C'est ça. Donc quand j'ai fini de balayer avec mes sœurs, nous avons fini de balayer la devanture de notre cour. Maintenant, il faut voir chez l'autre. Qu'est-ce que l'autre fait.
C'est l'autre. Et là, vous dites à la page 19, quand un homme choisit de vivre avec une femme, il lui faut nécessairement et régulièrement prier contre le diable. Oui. Ça, c'est le beau-père de Bourguiba qui le dit, à travers vous, justement. Bah, écoutez, qu'on ne comprend pas là. C'est qui le diable là?
Non, en réalité, vous savez, l'homme est fait de lumière et d'obscurité. Voyez, tout comme le jour est divisé en parties ensoleillées et en partie nocturne, où il n'y a pas de lumière. Donc il en est comme ça. Lorsque vous prenez l'appareil circulatoire, vous verrez, il y a une partie, le sang est rouge vif, l'autre, le sang est chargé de déchets, tout ça là, qu'il faut sortir par l'expiration. En dehors de ça, vous savez, l'homme et la femme qui décident de se mettre en couple constituent deux univers différents parce qu'ils proviennent de deux familles, de deux éducations différentes. Se voyez. Donc, par le principe de l'attraction que nous appelons amour, les deux acceptent de se mettre ensemble. Se voyez. Donc, disons par le principe de la fusion. Donc, les deux se mettent ensemble. Mais ça ne veut pas dire que la fusion est totale. Parfois, il y a de collusion. Vous voyez, parce qu'il y a des agglomérats qui restent, qui constituent la personnalité de chacun.
Oui.
Voilà. Donc, dès que vous portez atteinte à la personnalité de l'autre, tout de suite, elle réagit. Vous voyez. Et dans ces conditions-là, quand on a la force, on utilise difficilement ou bien on utilise objectivement la raison. Vous voyez. Donc, il est arrivé dans la plupart des cas, les hommes, abusant de leur force, veulent soumettre la femme à certains exercices. Et souvent, ce n'est pas acceptable. Et comme naturellement, elles sont intelligentes, elles essaient d'opposer leur intelligence à la force de l'homme, à la force masculine. Vous voyez? Donc, elles créent des situations où l'homme, malgré sa force, ne se retrouve pas. Vous voyez, j'ai donné plein d'exemples où quand vous prenez ce monsieur qui a fini de vendre son champ et devant sa famille, il dit, bon, grâce à l'argent que j'ai reçu, je vais prendre une deuxième épouse. Mm-hmm. Vous voyez, non? Mm-hmm. Elle est choquée, mais elle ne le laisse pas transparaître. Donc, elle a prié, tout le temps elle priait pour que la récolte, la moisson soit bonne. Elle l'a accompagné au champ, elle l'a aidé à la maison. Aux petits soins, elle était là. Mais dès que ça donne, la première des choses à laquelle l'on pense, c'est de prendre une deuxième épouse. Elle se voyait. Donc, quand le monsieur a dit, donc, derrière le rideau, elle est allée voir les charlatans et autres. Tout ce qu'ils ont donné n'a rien produit d'effet positif tel qu'elle l'attendait. Elle a passé à une autre phase. Elle a laissé, quand le monsieur était sous la douche,
Elle a versé de l'eau chaude.
Elle a versé de l'eau chaude sur le monsieur. Vous voyez ? Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Dès que vous vivez avec une femme, il y a des limites.
Donc, c'est pour ça que vous dites que tout homme finit toujours par se faire manger par sa femme, c'est ça ?
C'est une autre vision. C'est une autre vision où, vous savez, monsieur Guidjimé, depuis le matin, vous n'êtes pas à la maison.
Pas du tout.
Pourquoi ?
Je suis au boulot.
Oui, vous êtes au boulot. Mais la finalité du boulot, c'est que vous trouvez de l'argent pour mettre votre famille à l'abri des besoins.
Bien sûr.
N'est-ce pas ? Donc, tout homme, par milliers, par millions, quitte leur famille. Pas par volonté ou par joie, mais sous le coup de la responsabilité. Elles se voient. Certains rentrent et ne retournent plus vivants.
C'est tout, comme ça qu'ils vont manger par
tout,
la femme ?
Ouais, tout ça, là, c'est ce que la société dit. C'est un fou qui disait ça. Quand les jeunes se préparaient au mariage, ils restent, ils rient, ils disent vraiment, ceux-là, ils ne comprennent pas la vie. Pourquoi ils courent avec tant de joie vers ce qui va les manger ? Vous voyez ? Non, c'est le fou qui disait ça. Donc, c'est exactement ça. C'est le poids de la responsabilité, vous voyez, et l'allégorie du bossu.
Et aussi le poids de la parole, parce que...
Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Bourdieu, la parole l'a trahi. Il a dit plus gros ce que certains hommes disent, peut-être en optant pour la polygamie. Il a dévalorisé Khadija, sa femme, au profit de Zaha, celle qui a quitté la ville pour Gambaka, je crois bien.
Bien sûr.
Alors il dit, en voilà une avec laquelle un vrai homme devrait dormir, au lieu de ces femmes-là, qui donnent les mêmes sensations comme si l'on dormait sur le sol nu. Mais on s'en contente à défaut d'avoir une vraie femme. C'est à la page 41. Et c'est justement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bourdjema a commencé à courir comme un dératé. Il est rejeté par le village, sauf son ami Baka. Son beau-père, même Gandringo, lunatique au gré de l'alcool, ne l'a pas supporté. Alors, mais s'il y a des polygames dans le village, ce n'est pas à défaut, ce n'est pas le fait qu'eux, ils acceptent l'action que la parole.
Oui, on peut le dire, comme je l'ai dit, nous n'avons pas tous le même comportement devant un événement. Certains crient quand d'autres prient, se voyez.
Bien sûr.
Donc, certains sont plus stratèges, ils ne disent rien, voyez. Et
ils restent non-verbal, comme le disent les latins, des faits et non des paroles.
Chez nous, il y a une petite histoire où un monsieur a vu un ancien camarade de classe qui est devenu très riche, très prospère, et en souvenir de leur amitié et du soutien qu'il a eu de ce dernier, lui a fait un chèque de 10 millions pour dire, bon, tiens, pour tout ce que tu m'as fait quand on était élève, tu m'as accueilli chez toi, tu m'as aidé. Aujourd'hui, c'est mon tour de te rendre la monnaie.
De ta pièce.
Quand il est rentré, il a appelé son épouse. Il dit, tu vois, le bienfait n'est jamais perdu. Un ami vient de me faire tel geste. Ta boutique, on va la faire. Ah. Je vais te donner un peu de fonds de commerce. Et moi-même, je vais prendre une deuxième épouse. Et la dame dit, ah, donc je vais prier dessus. Elle prend le chèque, elle entre dans la chambre à coucher. Quelques instants après, elle ressort. Elle marche comme du chewing-gum. Comme si c'était du chewing-gum qui est dans la... Et le monsieur dit, bon, donne le chèque pour que... Elle dit, non, c'est ton chèque, je suis en train de manger. Prends une deuxième femme dans ma bouche. Voilà, donc c'est pour vous dire... C'est pour vous dire qu'effectivement, certains sont stratèges, ils ne disent rien. D'autres le font de manière ostentatoire, vous voyez. Mais en général... Quand vous voulez prendre une deuxième épouse, ça ne veut pas dire...
Faut pas le dire.
Non.
C'est justement ça, non?
Non, on doit quand même causer. On doit échanger avec la première. Voyez? Quand on prend une deuxième épouse, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un problème avec la première, non.
Et qu'est-ce qu'on fait alors pour aller au-dehors?
Dans la tradition africaine, quand vous voulez prendre votre première épouse, le premier exercice auquel on la soumet d'abord au niveau des esprits, c'est de voir si elle est féconde, si elle peut faire d'enfants. Si c'est bon, on dit oui, il faut prendre parce que l'homme est la première richesse du monde. Se voyez.
Jean Baudin.
Voilà. Quand vous vivez avec cette épouse et au niveau de la prospérité, on ne voit pas d'amélioration, on dit cette femme, c'est pas votre femme de chance. Se voyez. Parce que chaque femme a le chapeau qu'elle porte. Les femmes ne sont pas les mêmes. Il y a certaines dans la maison. Elles sont méthodiques, tout est propre, tout est bien rangé, voyez. Il y a d'autres, vraiment, l'éducation des enfants, c'est leur fort, voyez. Il y a d'autres, c'est la cuisine. Et vous voyez, il y a d'autres, vraiment, votre famille est toujours heureuse de l'avoir parce qu'elle s'est occupée des étrangers. Voyez. Donc, il est rare de trouver toutes ces qualités en une femme. Voyez. Donc, dans la tradition africaine, on sait que dès que vous avez une première épouse et que ça ne va pas, on dit tout de suite que, bon, il faut prendre une deuxième. Et dès que vous prenez une deuxième, si vous avez un champ, vous allez voir que ça commence par donner. Si vous êtes éleveur, vous allez voir que ça commence par donner des jumeaux un peu partout.
Ah, vous faites la polygamie.
Voilà. Et maintenant, la troisième femme, la troisième femme, c'est quand vous voulez, par exemple, une responsabilité, vous voulez être chef, vous voulez être roi, on vous dit parmi vos familles, il n'y a pas une reine. Voyez.
Alors, nous allons suivre le beau-père, un extrait du beau-père.
Oui.
Ce n'est pas lui qui parle vraiment, mais bon, son coin préféré.
Oui.
La case ronde,
oui,
c'est à la page.
Allez-y.
Âge 28. À présent qu'ils ont été anéantis par la peur, la trahison, la trop grande lucidité, l'incompréhension, le désespoir, l'impuissance, le seul consolateur reste l'impitoyable alcool qui efface ce qui reste encore de lumineux en eux. À y observer de près, la tranche d'âge des alcooliques varie de 25 à 65 ans. La case ronde est une nasse qui ne laisse guère s'échapper ceux qui y entrent. Elle érode l'humanité, ruine la santé et installe des familles entières dans la désolation. Quand la famille ne peut aider, quand la société ne peut apporter de solutions, l'individu, à bout de souffle, s'en remet au remède expéditif, dépouillé de tout. Ils sont le miroir dans lequel plus personne n'ose se regarder. Dire que la case ronde est un couloir de la mort est une palissade. Elle est la preuve que l'homme ne tire pas assez le son de la vie, de ses semblables et des événements. Car malgré l'étendue des dégâts qui dépouillent ses visiteurs de leur dignité, la case ronde continue de faire des recrues.
La case ronde est partout, visiblement. C'est à Djougou là-bas.
Bien sûr.
C'est aussi à Cotonou là-bas.
Bien sûr.
Alors, quelle image voulez-vous transmettre lorsque vous dites la case ronde est une nasse qui ne laisse guère s'échapper ceux qui y entrent?
Alors, vous savez, ce sont nos passions qui nous tuent.
Ah, donc le livre me tue aussi, c'est ça?
En général, il y a des passions nobles. Vous voyez, et il y a des passions qui ne sont pas licites, il y a des passions illicites. Le jeu, l'alcool sont des passions illicites.
Ça devient une addiction.
Oui, ça devient une addiction, ça ne grandit pas l'homme, ça ne travaille pas la dignité de l'homme. Vous voyez. Et c'est malheureux, c'est malheureux, mais c'est un fait de société.
Mais pourquoi la case continue de faire des recrues malgré les dégâts?
Ah oui,
cause.
Oui, la case continue de faire de dégâts parce qu'il n'y a pas de solidarité humaine. Parce que quand vous écoutez leurs récits personnels, leurs histoires personnelles, vous voyez, à un moment donné, c'est l'absence d'une main tendue qui a poussés.
Vous avez fini par insulter ceux-là qui... Enfin, pas insulter, mais
ouais.
Vous avez fini par flécher,
oui,
ceux-là qui boivent. Vous dites, ce que l'homme sobre,
oui,
garde dans son cœur,
oui,
le soula, là sur la langue.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est faux?
Non, mais je ne sais pas.
Moi, je ne les insulte pas.
Quand vous prenez... Enfin, vous prenez de l'alcool, n'est-ce pas?
Non, je n'en prends pas. Je prends de l'eau, je prends des sucreries. Il m'arrive de prendre quelquefois du vin. Parce que
et
là,
quand vous prenez, vous commencez à parler, à haute voix?
Non, je ne parle pas. Non, je deviens plus calme.
Plus calme. Donc le vin vous calme.
Ouais,
comme un sage, auditeur et auditrice de la radio Éducation, amoureux des belles lettres, une pause s'impose. Écoutons Kiri Kanta avec Solo.
Bacana.
Retour en studio pour connaître les périples de Brujema devenu Wasika. C'est dans le roman Coupable de Fuseni Tanko Banakorodi, titulaire d'un master en gestion des ressources humaines et développement local. Alors, toutes les femmes ont décidé de remettre en cause la valeur des hommes, justement après les propos de Brujema. Ce dernier est déchu de son poste de porte-parole des hommes du village de Gambaka. Les femmes sont désormais à l'honneur. Allons suivre cet extrait de la page 54.
Comme vous le voyez, le féminisme a toujours été et demeurera tant qu'il existera de femmes sur la terre. À travers les époques, le féminisme a revêtu plusieurs formes. Dans le passé, elle agissait sans expression ouverte, subtile et intime à la famille. Parfois, la femme affiche publiquement sa mainmise totale sur son époux, aux grandes dames de la belle famille qui attribuait ce fait à un ensorcellement. De nos jours, cette lutte silencieuse et solitaire a pris une tournure formelle et expressive à travers des mouvements connus et soutenus par des instances nationales et internationales. C'est vrai aussi que dans le passé, chaque homme qui faisait le choix de vivre aux côtés d'une femme savait en lui-même les limites interdites. Tout en restant dans leur silence, les femmes étaient redoutables. Il vaut mieux en faire un allié sûr qu'un ennemi mortel. La dignité étant la chose humaine également partagée, toute femme qui sentait sa dignité bafouée, ne se laissait pas faire et au prix de sa vie, était prête à se battre pour imposer le respect. Et ça, c'est la marque d'une humanité qu'on ne saurait attribuer à un genre particulier.
Merci. Alors, vous venez de suivre l'extrait. Est-ce que, selon vous, quelles sont les formes de féminisme qui s'exprimaient dans le passé? Le livre est une ode au féminisme, c'est ça?
Non, ce n'est pas une, c'est pas une ode au féminisme. Au contraire, c'est un rappel. C'est un rappel de l'histoire du féminisme, comme nous l'avons dit avant Simone de Beauvoir, qui est le chantre du féminisme moderne. Mm-hmm. Donc, le féminisme existait, mais pas dans un mouvement organisé.
Comme ce que nous voyons aujourd'hui.
Comme ce que nous voyons aujourd'hui. Mais toujours est-il que la société avait ses règles et ce n'est pas parce que vous êtes l'époux que vous allez tout vous permettre. Vous savez, le divorce n'est pas un terme moderne. Il y a eu des divorces même au temps de nos grands-pères. Il suffit que l'homme se comporte mal et tout de suite, la société, la communauté se lève pour dire non, ça ne va pas. Et c'est pourquoi, entre-temps, c'est entre les familles que ça se pose, ça se passe, ce n'est pas entre les individus. Dès qu'une famille se sent à travers son enfant que l'honneur est bafoué, tout de suite, on met fin au mariage et la femme est libre d'aller se remarier. Pour ce qui concerne le féminisme moderne, vous savez, il y a le féminisme différentialiste et le féminisme existentialiste.
Et vous savez que nos sœurs en abusent désormais, vous ne savez pas. Ouais. C'est mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. Ou bien je me trompe,
vous
savez.
Non, vous savez.
Et là, on a beaucoup de femmes qui sont célibataires, mais alors que dans votre livre, vous taclez aussi les célibataires.
Oui, en fait, comme je dis, mon souhait intime et ultime, c'est de voir les enfants qui sont l'avenir de demain, de voir les enfants grandir sous le regard des deux parents. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des filles élevées par leur père qui sont contre leur mère, et des garçons élevés par leur mère qui sont contre leur père. Vous savez, la société, pour être dirigée par des hommes équilibrés, a besoin que le garçon ou la fille soit suivi par les deux parents. Vous voyez, les enfants tirent de l'énergie de la mère, tirent de l'énergie du père, les conjuguent, vous voyez, non? Et forment leur personnalité, voyez, non? En mettant les deux énergies ensemble. Mais si aujourd'hui, vous avez carrément
une
éducation monoparentale, ça veut dire que la société future aura des problèmes. Et vous êtes sans savoir que les études psychiatriques, psychologiques ont montré que toutes les tragédies que nous vivons aujourd'hui ont été conduites par des hommes qui, pendant leur enfance, ont subi des maltraitances. Elles se voient, ont subi des maltraitances. Donc, Quand un enfant ne vit pas entouré de l'amour des deux parents, ça va nécessairement poser un déséquilibre. Donc c'est pourquoi nous attirons l'attention, en fait, c'est ça ce que nous voulons.
D'accord.
Nous attirons l'attention des parents. Et je suis, on dit Viotu, voyez, Viotu. Au sud ici, ça veut dire, quel que soit ce qu'il y a, la femme reste à cause de l'enfant, pour que l'enfant soit un homme demain. Vous voyez, non? Donc j'invite vraiment les couples à mieux s'entendre, parce que l'autre forme du mariage, l'autre vocable du mariage, c'est la patience. Vous voyez, non? C'est la patience qu'on appelle la vie à deux. Sans la patience, ça ne passe pas.
Alors, les circonstances de la vie obligent parfois l'homme à changer d'identité, de mode de vie.
Oui.
Brujema devient Wasika dans le village de Zondak. Devient l'ami de Ali Kouara.
Oui, Ali Kouara. Oui.
Un berger.
Oui.
Alors, pensez-vous que le départ de Brujema de Gambaka pour Zondak est la meilleure formule, ce qu'il fallait? Ne faut-il pas affronter la réalité par moment?
Ah oui, vous savez, chez nous, on dit... Je ne sais pas si vous avez vu une fois comment les moutons, les bœufs...
Vous avez toujours cette envie de vous rapprocher des bœufs, des moutons? Seigneur.
Oui, c'est le milieu qui fait l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est
le milieu. Et puis le mouton brut, là où il est attaché.
Donc, vous allez voir, il recule, les deux reculent. Vous voyez? Et après, ils viennent se cogner.
Oui.
Vous voyez ça? Voilà, en fait, il arrive des moments où il faut faire marche arrière et revenir en force. Vous voyez, c'est des leçons de la vie.
Ah, d'accord.
Y a des moments quand vous sentez que ça ne va pas, il faut reculer. Et en politique, vous le voyez chaque jour. Vous voyez, il y a certains qui sont battus pour ces élections. Mm-hmm. Ils vont se refaire, ils reviennent en force.
Racontez-moi brièvement l'histoire du boucher et du coiffeur en quelques minutes, parce qu'on est en train de finir.
D'accord.
C'est dans le livre.
Le boucher, il est très fort. Il a pris la femme du coiffeur. Mm-hmm. Et on ne sait pas ce qu'il a amené dans le salon du coiffeur.
Pour dire,
voilà, c'est dangereux. Tu ne peux pas aller te mettre pieds et mains liés dans les mains de ton ennemi. Je ne sais pas ce qu'il a amené. Moi-même, personnellement, je ne sais pas ce qu'il a amené. Il va, l'autre le prend et l'autre essaie vraiment de chasser le démon pour que l'ange reste et que Dieu le punisse. Mais finalement, il dit non, il vaut mieux taire certaines conventions religieuses et régler les choses d'homme à homme. Mmh. Voyez. Donc, quand il met le rasoir dans le nez, parce que c'est lui-même qui a dit que dans ses nez, il y a des poils qu'il faut enlever. Donc, quand il a mis, il a saisi par la tête pour dire, alors, est-ce que tu sais que je sais? Et l'autre, il a compris en même temps, il dit, mais est-ce que toi-même, tu sais que j'ai déjà laissé? Voyez. Donc, ça n'a pas été facile. Finalement, le roi est arrivé. Et il a dû payer, à titre de dommage, il a dû payer 3 bœufs. Parce qu'il a tout fait pour que sa femme ne fréquente plus le boucher. Mais le boucher est là et ce n'est pas aujourd'hui seul. Hein. Le matériel, par moment, ça attire. Mmh. Voyez.
On va conclure rapidement.
Oui.
Dites un mot.
Oh, vraiment, ça passe vite. Hein. Je tiens à vous remercier, vous et vos techniciens. Mmh. Je vous souhaite une longue vie. Merci pour cet accompagnement que vous faites pour nous, les écrivains. C'est avec beaucoup de plaisir. C'est vrai, il y a beaucoup de thématiques qu'on n'a pas pu épulcher. C'est avec beaucoup de plaisir que je repasserai. Dès que vous trouvez une page intéressante, appelez-moi. On va discuter autour. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Merci.
Et c'est tout pour ce numéro de votre émission consacrée au roman Coupable, le dernier de Fousséni Tanko Banakorodi. Nous refermons Coupable avec l'histoire de Brujema en tête. À Gambaka, un village, quelques phrases ont suffi. Je les avais lues plus haut. Il s'agit d'une comparaison, d'un mépris jeté en public. Et c'est là la dignité d'une femme qui s'effondre. La parole de Brujema n'a pas tué, mais elle a exclu. Elle a fait de lui un homme que son propre village ne pouvait plus regarder en face au point de le pousser à partir. Lire Coupable, c'est comprendre que les mots ne sont jamais neutres. Ils construisent ou ils déracinent. Ils gardent des gens debout ou ils forcent à l'exil. L'auteur est resté fidèle à son style avec des histoires entremêlées. Qu'en est-il de Brujema? Est-il revenu à Kambaka? Vous le saurez en lisant ce livre. Avant de mettre un terme à l'émission, il me plaît de partager cette citation de l'écrivain ivoirien Amanou Kourouma, je cite « La parole est un livre ouvert que l'on feuillette avec la langue. Fin de citation. Quant à moi, je dirai à mon tour le livre Un débat avec Eba entre le lecteur et l'auteur. Jidas Beyazin Awagbe, Ferdinand Zamba, Jean-Marie Arotondi, Franklin Gbeyon, Nadia Podito, Leslie Yokosi et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative et littéraire en continu. Ferdinand Zamba a assuré la manipulation technique, la coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arotondi. Au micro, je suis Enoch Guidjimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Vigue Littéraire. Comme on le dit en dindi, Achidenso.
La virgule littéraire.
La virgule littéraire. La virgule littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La virgule littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.